politique sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Bonsoir à tous et bienvenue. Il a pris ses fonctions en décembre dernier, hérite d'un département exigeant et fragile. François-Xavier Loche, préfet du Pas-de-Calais, est notre invité ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous évoquerons au cours de cette demi-heure la situation migratoire, bien sûr, dans le département, mais aussi les autres gros dossiers, à savoir les inondations et les questions liées à la sécurité en général. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
C'est moi.
François-Xavier Loche, vous étiez jusqu'au mois de décembre dernier préfet de l'Hérault. Vous avez également été directeur de cabinet d'Emmanuel Macron entre 2017 et 2020, directeur adjoint du cabinet du ministère de l'Intérieur sous Gérald Darmanin. Qu'est-ce qui vous a frappé, interpellé quand vous êtes arrivé chez nous dans le Pas-de-Calais il y a quasiment 6 mois maintenant ?
La complexité et la diversité de ce département d'abord, la gentillesse des gens que j'ai croisés. Vraiment, je trouve que les habitants du Pas-de-Calais ont la main sur le cœur et je les remercie de leur accueil. Et puis, les difficultés dans ce département, les drames humains, on va en parler autour de l'immigration. Mais plus que tout, un département qui résiste à tout, qui est résilient, qui sait se reconstruire. Quand on regarde son histoire, les guerres, la désindustrialisation, la fin des mines... Et pour autant, des choses exceptionnelles qu'on ne trouve pas ailleurs.
Et quand on est haut fonctionnaire comme vous, c'est un territoire qui intéresse ?
Ah bah oui.
Où y travailler ?
Par la taille du département, 1,5 million d'habitants, par ses enjeux. Je vous parlais de l'industrie, mais je pourrais vous parler de l'agriculture, je pourrais vous parler des enjeux de transport, des enjeux du bassin minier avec le RBM, les enjeux évidemment de la lutte contre l'immigration clandestine. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de départements en France qui en aient autant assemblés, et c'est ça qui est extraordinaire.
Il y a déjà un souvenir qui est marquant pour vous ?
Oui, ce n'est pas un souvenir très, très heureux, mais vous savez, quand pour la première fois vous êtes confronté à des personnes qui perdent la vie en tentant de traverser la Manche, c'est 4 personnes dont j'ai vu les corps étendus sur une plage avec un plage. On n'est jamais préparé à ça. C'est un métier difficile d'être préfet, on voit beaucoup de drames. Mais on n'est jamais préparé à la vision de la mort. Et je me souviendrai longtemps de ces images, de nous être retrouvés avec la procureure de la République, ses sapeurs-pompiers, les gendarmes, sans vraiment savoir quoi se dire, parce qu'en réalité, à chaque fois qu'on voit ça, c'est un échec.
La pression migratoire, justement, on en parle ce soir. Cette pression, elle existe depuis plusieurs années. Maintenant, c'est notre première partie. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, a annoncé jeudi dernier à Lonne-Plage un nouvel accord franco-britannique, 766 millions d'euros pour renforcer les moyens de lutte contre l'immigration clandestine, donc chez nous. Une hausse du budget de 42% pour empêcher les traversées de la Manche. Je le rappelle, c'est assez complexe, mais c'est de l'argent anglais. C'est une bonne nouvelle ?
Oui, c'est une bonne nouvelle parce que le dispositif qu'on a actuellement, il est pour partie, en tous les cas dans son volet opérationnel, et puis on parlera sans doute du volet plus social et accueil et accompagnement. Il est quand même très appuyé sur ses crédits, et donc ça veut dire qu'on va pouvoir le poursuivre, l'augmenter, avec un seul objectif que je voudrais rappeler ici, parce que évidemment, on se pose une question quand on arrive dans le département, c'est qu'est-ce qu'on va faire de plus et, à quoi bon tout cela ? Eh ben, moi, je le résume en 2 mots, sauver des vies. Sauver des vies.
On passe de 900 à 1400 effectifs, donc dans ce nouvel accord sur 3 ans, effectifs de police, de gendarmerie, de réservistes. C'est une politique répressive assumée ?
Non, elle n'est pas que répressive. Moi, je ne le vois pas du tout comme ça. Et ce n'est pas comme ça que les gendarmes et les policiers qui sont sur le terrain le voient.
Mais quand on renforce les moyens humains,
ouais,
les moyens d'équipement aussi pour
ces policiers et gendarmes. On renforce les moyens humains pour empêcher des traversées. Et derrière le fait d'empêcher les traversées, je me permets de le répéter et de faire beaucoup de pédagogie là-dessus, c'est pour éviter que des personnes se noient, des jeunes enfants, des femmes, des hommes qui viennent de tout pays... qui montent sur d'horribles rafios, parce que c'est comme ça que c'est à ça que ça s'apparente, qui ne sont pas en état de naviguer avec autant de personnes. On constate une augmentation du nombre de personnes sur les bateaux, parfois 100.
Le phénomène des taxi boats.
Small boat ou taxi boat, avec souvent des jeunes enfants, certains qui meurent étouffés sous les autres dans les bateaux. C'est ça la réalité. Et donc on sauve des vies, puis on a aussi beaucoup de moyens pour lutter contre de très grands criminels qui sont des passeurs. Et j'utilise le terme de criminel parce que ces gens-là enlèvent des vies tous les ans. Et c'est notre priorité que de lutter contre ça. Et puis il y a tout un volet aussi dont on parle quasiment jamais, qui est la partie humanitaire, qui est la mise à l'abri de ces personnes, qui est le fait d'essayer de les éloigner de Calais, de la côte, pour les mettre à l'abri dans ce qu'on appelle des centres d'accueil et d'examen des situations, de leur proposer des retours volontaires, de leur proposer l'asile quand c'est nécessaire. Bref, les sortir de ces campements qui sont des bidonvilles, les sortir de la main des passeurs aussi, ces criminels.
Mais qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens, justement,
il y a beaucoup de questions qui se posent actuellement sur le dispositif. Il y a une commission d'enquête. Oui, ils reviennent. Moi, je reste à ma place. Vous savez, on dit souvent les accords sont responsables de ceci, de cela. En réalité, on est face à une situation qui dure depuis plusieurs dizaines d'années. Les premiers migrants qui sont arrivés à Calais pour tenter de traverser la Manche, c'était le début des années 90. Il y a eu toute la période qu'on t'a oublié du tunnel sous la Manche, du port, où par an, des dizaines de milliers de tentatives de passage avaient lieu. Maintenant, on en est à l'étape des small boats et des taxi boats, vous l'avez dit. C'est un sujet qui est européen, voire au-delà. Moi, je suis préfet du Pas-de-Calais. Je vous ai donné mes objectifs.
Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas ?
Traiter les gens avec humanité, faire en sorte qu'ils ne perdent pas leur vie, et être ferme aussi parce que c'est une frontière.
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans cette politique et qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer aussi ?
C'est vous qui dites que ça ne fonctionne pas.
Pour présenter les équipes sur le terrain.
C'est vous qui dites que ça ne fonctionne pas. Moi, ce que je vous dis, c'est que depuis le début de l'année, et je ne vais pas m'enorgueillir ici parce qu'il y a des raisons qui sont liées à la météo, il y a des raisons qui sont exogènes au département, mais j'ai 4/5 de moins de traversées. Donc ça veut dire que petit à petit, on arrive à les résorber. J'ai des services qui ont démantelé 8 filières de passeurs et interpellé 22 passeurs. Et je vous prie de croire qu'ils sont condamnés par les tribunaux et je salue ce que font les autorités judiciaires. Et puis, tous les matins, autour de ce seul campement qui est à Calais, qui s'appelle le Virval, j'ai des bus qui sont présents pour proposer des mises à l'abri aux gens et les sortir d'authentiques bidonvilles, et encore une fois, de la main des passeurs. Donc, il faut regarder ces dispositifs avec beaucoup de longueur de vue. Il faut voir d'où on vient. C'est compliqué de savoir effectivement où on va. Moi, je me fixe des objectifs limités. Je vous l'ai dit, sauver des vies en empêchant les personnes de traverser.
Est-ce que vous réduire avez les moyens adaptés à la réalité du terrain ?
Bien sûr que j'ai des moyens. J'ai 3300 policiers dans le Pas-de-Calais. C'est un grand département pour la police. J'ai plus de 1100 gendarmes. J'ai 800 réservistes qui arrivent tous les ans. J'ai des compagnies républicaines de sécurité, des escadrons de gendarmerie mobile, des avions, des drones. Voilà, la réalité, c'est que, vous l'avez dit vous-même, faire face à des personnes qui, au risque de leur vie, manipulés par des passeurs, ces criminels, tentent de passer plusieurs fois, c'est compliqué de les arrêter. Nous faisons ce que nous pouvons en disant cela, je salue grandement l'action des gendarmes, des policiers, des associations aussi, il ne faut pas les oublier, des pompiers qui sauvent des vies,
sauveteurs en mer, bien sûr,
qui passent d'un objectif à l'autre très rapidement. En quelques minutes, ils passent de personnes qui sont là pour empêcher de traverser et faire leur travail de garde frontière. Et la réversibilité de la mission fait que 3 minutes plus tard, ils peuvent être dans l'eau pour sauver des vies. Je remettais tout à l'heure des actes de courage et de dévouement à des sapeurs-pompiers. Tous les jours, j'ai d'authentiques héros qui sont sur les plages pour sauver des vies.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ce qu'ils me disent, c'est que c'est dur parce qu'on
partage. J'espère que vous les croisez un petit peu quand même, parce
qu'on n'interroge pas.
C'est les gendarmes et les policiers
les
tous les jours. Vous savez, c'est ceux qui très souvent luttent contre les cambriolages, contre les atteintes aux biens, contre les violences intrafamiliales. Un gros sujet dont on va parler tout à l'heure peut-être. C'est des gens comme vous et moi qui se posent des questions et qui se rassure tous les jours en se disant qu'en empêchant un bateau de partir, il sauve des vies, et en faisant en sorte de démanteler des campements, ils mettent des gens à l'abri pour les placer dans des conditions plus dignes.
Vous disiez, c'est un dossier européen. Le ministre Laurent Nunez explique que le Royaume-Uni doit être moins attractif. Quelle est, selon vous, la part de responsabilité justement du Royaume-Uni dans ce dossier ?
Moi, je ne suis pas ministre des Affaires étrangères, je ne suis pas ministre de l'Intérieur. Je ne vais pas aller sur ces terrains-là. Je ne parlerai certainement pas de responsabilité dans quelque chose qui, à mon avis, est encore une fois, une origine plus vaste que l'Europe. Vous avez dans ces flux des gens qui fuient des guerres, vous en avez d'autres qui fuient des situations économiques, vous en avez beaucoup qui cherchent à rejoindre des familles qui sont déjà installées en Grande-Bretagne. Ce qui est sûr, c'est que la solution, elle est dans la coopération et pas dans l'opposition.
Et est-ce que vous comprenez la réaction d'Natacha Bouchard, la maire de Calais, qui regrettait que cet accord n'ait pas été signé dans le Pas-de-Calais et notamment à Calais? Et quel est votre message aussi pour les élus du littoral? On sait que la situation géographiquement a beaucoup évolué.
Écoutez, je les rencontre en ce moment, ces élus. Vous voyez, j'étais avec les maires de l'arrondissement de Calais hier. Je leur ai dit que je comprenais ce qu'ils vivaient. Voilà. J'étais l'autre jour avec le maire d'Équien-Plage. On a eu un échange un peu vif parce qu'il m'a dit qu'il en avait marre de voir des naufrages sur ses côtes, qu'il ne supportait plus de voir des morts, je le comprends. Ces élus ne veulent pas non plus voir des migrants être dans les transports, s'accumuler dans des campements. Ce sont des communes touristiques en plus. L'image de Calais, elle est évidemment liée à cela, alors qu'on a une maire qui est extrêmement courageuse, qui se bat aussi face aux difficultés économiques de sa ville. Donc mon rôle, moi, c'est pas de commenter, c'est de soutenir. Vous savez, il y a le travail des préfets et des sous-préfets tous les jours sur le terrain. Il y a des choses que vous voyez pas. Il y a ces appels avec les élus qui quasiment parfois traitent du vague à l'âme, celui qu'on a un petit peu tous, qui, au-delà de ce sujet très compliqué, essaie de faire venir des entreprises sur ce territoire qui a beaucoup de ressources, à faire revenir le commerce, à aider au projet de ces maires-là. L'État mobilise beaucoup de moyens quand même à ce titre-là, hein, notamment à Calais, dans le cadre du contrat du CRTE, de ce contrat qui vise à faire une ville plus moderne, plus adaptée aussi au changement climatique. Donc il y a une forme de contrepartie à ces difficultés. Moi, je comprends aussi la parole politique qui est de dire que c'est pas suffisant.
Qu'est-ce qui vous demande ces élus ?
Ce qu'ils me demandent, c'est de faire mon travail, madame. Faire en sorte qu'il n'y ait pas des morts, parce qu'ils ne supportent pas, comme nous, de voir des morts sur les plages, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de campement, et d'entendre le fait que, sur certains sujets, cette situation est une charge financière pour eux. Voilà ce qu'ils demandent. Et moi, j'ai rien à dire à ça. Je trouve ça parfaitement normal. Donc, mon travail, c'est de les accompagner.
Vous avez le sentiment de pouvoir améliorer leur situation et la situation des habitants?
On le fait. Si vous regardez le dispositif d'aujourd'hui et celui qu'il y avait, par exemple, il y a 20 ans, il n'a plus rien à voir. Il n'a plus rien à voir. Par exemple, sur le dispositif humanitaire, l'État mobilise 20 millions d'euros par an à Calais. C'est l'État qui donne à boire, qui donne à manger, qui ramasse les déchets, qui fait les mises à l'abri. Mais encore une fois, je comprends qu'on puisse dire que ça soit insuffisant. Mais moi, je suis dans une perspective progressiste. Vous savez, ce qu'on fait dans ces villes-là, c'est... On le fait par petits bouts, de la sécurisation ici et là, sur des fonds sondeurs, sur des dotations de l'État. Bref, on progresse ensemble. Et moi, je suis là pour écouter, je suis là pour prendre des coups aussi, quand il y en a à prendre, parce que je comprends qu'on puisse critiquer parfois la position de l'État, mais je suis là pour avancer, pour garder le contact, encore une fois, pour écouter, comprendre, agir.
Autre défi majeur, François-Xavier Loche, le changement climatique et les conséquences des inondations de 2023-2024 dans le département. Un dossier un peu moins médiatique, mais tout aussi complexe.
Écoutez,
vous avez hérité évidemment de...
Moi, j'ai trouvé, en arrivant dans le département, en faisant des premières visites sur cette thématique-là, des habitants qui ont peur. Ils ont peur de revivre...
C'est vraiment ce qui vous frappe quand vous parlez avec eux ?
Les gens ont peur. Ils ont peur de revivre ce qu'ils ont vécu en 23-24. 2 à 4, vous voyez, l'autre jour j'étais autour de la Canche, 2 à 4 montées des eaux, plusieurs semaines d'écart. Une situation où des maisons, des équipements sont restés durablement sous l'eau, à tel point que les gens se sont demandé si l'eau allait partir un jour. Et la peur à chaque fois qu'il pleut, c'est ça que j'ai trouvé. Une vraie difficulté à entendre ce que nous avions fait, parce que l'État a fait beaucoup. Il y a eu 350 millions d'euros qui ont été mobilisés, il y a des crédits européens d'ailleurs derrière. Mais des gens qui me disaient, monsieur le préfet, je le dis sans faux jeu de mots, ne nous laissez pas au milieu du guet. Ce guet, c'est, l'État a contribué avec les collectivités à restaurer la situation, à indemniser. Mais pour autant, pour l'instant, on considère qu'on n'est pas protégé contre des futurs creux.
Où est-ce qu'on en est justement des indemnisations
Ce volet-là, il est en passe d'être terminé. Je ne vous dis pas qu'ici et là, il n'y a pas de sujet. Vous savez, quand je suis allé à Boulogne, j'ai croisé une dame qui a perdu son restaurant. Et bien avant ces inondations, d'ailleurs, ça faisait 10 ans qu'elle n'avait pas de réponse des différents services. Je suis en train de m'en occuper. Donc, je ne vous dis pas que des cas individuels, il n'y en a pas. Mais je crois que tout le monde a mis beaucoup d'énergie à les régler. Maintenant, moi, mon sujet, c'est d'assurer la résilience du département. C'est-à-dire...
Alors, qu'est-ce que ça veut dire, oui, ce mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des travaux,
c'est une chose très simple.
Une stratégie.
Oui, c'est une stratégie, c'est voir loin. C'est d'abord expliquer aux gens qu'avec le changement climatique, je pense qu'il faut être très clair là-dessus, on ne pourra pas les protéger de tout. C'est pas vrai, ce serait leur mentir. Il y aura des événements de même nature, il y en aura peut-être même des plus graves. Mais en tous les cas, on peut essayer de les protéger d'une partie de ces événements, d'abord en faisant des travaux sur les différents cours d'eau, pour que l'eau n'arrive pas dans les mêmes quantités, pour qu'elle reparte plus vite.
Il y a encore des travaux de prévus là, dans les prochains
mois ?
Bien sûr. Sur quel cours d'eau ?
Je pense même que les gros travaux sont les plus importants à venir. Ça prendra des années, parce que ça coûte très cher. C'est ce qu'on fait dans les plans d'aménagement et de prévention du risque inondation, ce qu'on appelle les PAPI. Et il y a un sujet de gouvernance derrière, peut-être qu'on y viendra. Bah, ces cours d'eau, c'est la Lys, c'est la c'est la Liane, c'est la Canche, ces grands cours d'eau qui ont été touchés. Deuxièmement, parce qu'on ne peut pas tout protéger, il faut apprendre dans certaines zones à vivre avec l'inondation. C'est ce qu'on a fait avec un projet qui s'appelle Mirapi. Sans rentrer dans le détail, c'est concrètement comment on protège des maisons, comment on surélève à certains endroits. J'ai visité... à Neuville, une pharmacie qui a été reconstruite avec un plancher à niveau. J'ai visité dans une zone commerciale Saint-Étienne-au-Mont, là aussi, un commerce qui avait été surélevé. Comment on met des bâtards d'eau, par exemple? On en a financé pour 30 millions d'euros, des bâtards d'eau et des analyses sur les maisons. Puis il y a un autre volet qui est très important et que je ne veux pas oublier, c'est comment on gère la crise. Parce qu'en fait, le constat qu'on fait dans le retour d'expérience, c'est que on avait un petit peu tous oublié collectivement la complexité du chevelu de réseaux de rivières et de canaux qu'il y avait dans le département. En gros,
Très complexe.
Extrêmement complexe. Moi, j'ai fait 5 visites de terrain pour commencer à comprendre et je n'ai pas fini de comprendre. Et ça, il faut qu'on le couche sur le papier dans ce qu'on appelle un plan hors sec avec des sous-plans par bassin, organisation de la réponse de sécurité civile, pour savoir très concrètement quand est-ce qu'on ouvre un déversoir ou une écluse, quand est-ce qu'on met des pompes en route, pour ne pas aboutir à la situation qui a pu arriver certaines fois, qui était de pomper un endroit pour remettre
donc
de l'eau
apprendre des erreurs,
à d'autres endroits. Mais bien sûr.
Or, ça qui sera présenté à l'automne.
Qui sera présenté à l'automne. Donc le plan de résilience, ce qui nous reste à faire dans les années à venir, un petit peu avant l'été, le plan hors sec à l'automne. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être un petit peu court pour rassurer les gens, mais croyez-moi, je pense qu'en matière de culture de sécurité civile, il y a des pas de géant qui ont été faits dans ce département. Ça ne repose pas que sur les préfets, que sur les maires. Ça repose aussi sur les personnes qui doivent être conscientes qu'avec le changement climatique, le monde a un petit peu changé.
Votre message, c'est aussi d'avoir une culture du risque ?
Ah bah, totalement. Et c'est ce qu'on veut travailler dans le cadre des plans communaux de sauvegarde, notamment avec les maires. C'est de se dire...
Des moyens de communication un peu différents, c'est ça ?
On en a, des moyens de communication, mais vous savez, on a beaucoup de moyens, le sujet... Souvent, c'est de savoir les utiliser. Et pour savoir les utiliser, ce qu'on appelle la culture du risque, il faut que chacun soit conscient de ce qui peut arriver. Prends un exemple sur lequel j'ai écrit au notaire du département. Moi, je veux que les personnes, quand ils achètent une maison dans une zone qui est potentiellement inondable, ils soient bien informés du fait qu'ils achètent une maison
de ce type-là. C'était
pas le cas avant ? Eh bien, écoutez, j'ai eu par exemple 2 exemples. Pour lequel c'était pas le cas et ça a fini en drame humain. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça qui mises bout à bout font qu'on sera plus résistant, plus résilient aux événements.
Il y a un risque de voir le nombre d'habitants baisser dans le Pas-de-Calais, en tout cas sur ces zones-là où
non,
vous y êtes attentif ou pas ?
D'abord, la population du Pas-de-Calais, elle est plutôt déclinante pour des raisons démographiques. Non, je ne le crois pas. Vous savez, il ne faut pas non plus faire du Pas-de-Calais centrisme. Tout le pays est touché par le changement climatique. Moi, je viens d'un département, l'Hérault.
Ouais, on regarde toujours ce qui se passe à côté de chez nous.
Oui, mais je peux vous garantir que dans le sud de la France, les crues cinétiques rapides qui font des dizaines de morts, moi j'en ai vécu.
Mais les gens du Pas-de-Calais, touchés par les inondations,
sont forcément attentifs. Je pense d'abord à eux. Mais il y a des difficultés partout liées au changement climatique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on devrait faire plus le lien avec le changement climatique et changer nos comportements sur les émissions de CO2, parce que le changement climatique, il a une cause. c'est ce qu'on fait dans cette matière-là. On a deux bonnes raisons de changer nos comportements, hein. Les émissions de CO2 et de l'autre côté, c'est l'instabilité politique, la guerre en Iran. Vous voyez bien qu'une économie qui est décarbonée, elle provoque moins le changement climatique et puis elle est moins fragile aux chocs qui se passent à l'étranger. C'est autant de bonnes raisons de progresser sur ces sujets-là.
Votre rôle, monsieur le préfet, est aussi de garantir la sécurité dans le département. Petite révolution, justement, dans le Pas-de-Calais. Après 3 mois d'expérimentation et de pédagogie, le téléphone au volant est passible d'une suspension de permis de conduire. Les chiffres de la sécurité routière ne sont pas bons. 57 décès l'an dernier. C'est la raison pour laquelle il a été choisi, le département ?
Oui, les chiffres sont pas bons. Alors, il n'a pas été choisi. C'est moi qui ai choisi de faire ça. C'est ma responsabilité. Les chiffres sont pas bons. 9 morts de plus l'année dernière. 57 contre 48, c'est beaucoup, beaucoup, hein. Cette année, un quart de morts en plus par rapport à la trajectoire de l'année dernière. 20 contre 15. Ça va pas. Moi, j'ai des drames absolus sur mon territoire. Il suffit de regarder l'actualité. Je pense à ces jeunes enfants qui se sont tués il y a 2 mois de cela. Je pense encore à un drame qui a occasionné une marche blanche dans le département. Moi, je vois les familles effondrées, donc je veux lutter contre ça. Alors il y a beaucoup de causes dans les accidents. L'alcool en est une grande, la survitesse aussi, les stupéfiants une autre. On va parler de stupéfiants tout à l'heure. Mais les distracteurs en sont une autre. Et il faut savoir que quand vous téléphonez avec le téléphone à la main, par exemple en répondant à un SMS, quand vous conduisez, pardon, en répondant à un SMS, vous avez 23 fois plus de chances d'avoir un accident. C'est énorme.
Donc c'est la bonne stratégie pour faire baisser ces
chiffres. On verra si c'est la bonne stratégie. Moi, je veux surtout...
Vous étiez sur le terrain hier à Arras.
Oui, bien sûr. Moi, je veux surtout...
Les automobilistes comprennent, sont
visiblement,
réceptifs.
Visiblement, certains comprenaient. Moi, ce que je veux, c'est que les gens soient attentifs à ce qu'ils font au volant. Je ne veux pas qu'ils se retrouvent dans des situations où ils sont responsables de la mort d'autres personnes et où toute leur vie, parce qu'ils ont été condamnés par un tribunal, ils vont payer pour la mort d'une autre personne. Et donc, il y a la vitesse, il y a l'alcool, il y a les stupéfiants, il y a les distracteurs. Moi, j'agis sur tous les terrains. Vous savez, vous avez des suspensions pour les autres cas que je viens de citer. Il y en a dorénavant pour les téléphones portables. Je ne vais pas faire n'importe quoi. Mon but, c'est pas d'embêter les gens. Je sais que le permis, c'est très important. Pour l'instant, on a mis 420 avertissements dans le département. On a suspendu 21 permis. Donc, on va se concentrer sur les cas les plus graves. Mon but, c'est pas de suspendre. C'est que les gens comprennent que le téléphone, il faut le mettre dans son sac, à côté de soi, en mode silence et ne plus le toucher quand on conduit. Ce n'est que ça.
Les chiffres de la délinquance ont été dévoilés la semaine dernière en France. Les violences intrafamiliales qui restent encore beaucoup trop élevé chez nous dans le Pas-de-Calais, au-dessus de la moyenne française.
C'est plus qu'au-dessus de la moyenne française. On est le premier département de France en taux pour 1000 habitants. C'est un mal très local qui est très compliqué, qui vient, je pense, de très loin. Il y a des aspects culturels, il y a des comportements, notamment vis-à-vis de l'alcool, qui expliquent ça. C'est un drame absolu. Tout notre travail tous les jours, c'est d'éviter les féminicides. Vous parliez de la lutte contre l'immigration clandestine tout à l'heure. L'autre grand sujet de nature
mais
quasiment morale.
Quand on est préfet, je vais
y venir par plein de situations. Mais vous me parliez de la hausse de cette délinquance. C'est le seul indicateur que je regarde différemment des autres. Quand ça augmente, ça veut dire que les femmes ont osé aller porter plainte. Et donc je m'en réjouis. Parce que je pense qu'on n'a pas fini de révéler ces choses-là dans les ménages. Je pense aussi d'ailleurs aux violences qui sont faites contre les enfants. L'actualité est pleine de drames d'ailleurs horribles là-dessus. C'est très important et on a des choses horribles également dans le département. Il faut qu'on... Le premier geste, c'est de révéler. Faire en sorte qu'on puisse porter plainte. C'est pour ça qu'on a des assistants dorénavant dans les commissariats et les gendarmeries. C'est pour ça qu'on a formé ces dernières années les policiers et les gendarmes à écouter cela. Parce qu'on était quand même dans une société qui ne voulait pas le voir. Avant, quand une femme disait qu'elle était victime de violence, non mais on lui rigolait au nez, il faut dire ce qui est. Moi, je me souviendrai toujours, dans un autre département, de ce que m'ont dit des policiers d'une brigade anticriminalité avec qui je patrouillais. Ils me disaient, vous savez, il y a 15 ans, monsieur le préfet, quand on rentrait dans un ménage qui venait de se mettre sur la tête, on prenait la dame et on lui disait, sortez de là, madame, allez vous mettre à l'abri, et on la laissait tomber. On lui demandait même pas de porter plainte, on ne faisait quasiment rien.
Donc ça a évolué.
Maintenant, ils m'ont dit, maintenant, quand on y va, on prend le monsieur et on le met en garde à vue. Et il sera condamné. C'est quand même un petit peu différent.
Il faut que la justice suive aussi.
Mais la justice suit. La justice suit comment ? D'abord par la dureté des peines, ensuite en permettant à ces dames d'avoir des dispositifs. Je pense au téléphone grave danger, on en a presque 100 dans le département, en mettant aux messieurs des bracelets anti-rapprochement, en condamnant avec fermeté. Et puis nous aussi, de l'autre côté, il y a toute une série de choses qu'on ne voit pas, c'est qu'on met à disposition des logements pour ces dames, un accompagnement avec les associations que je salue. Là aussi, on est au milieu du guet, on est au moment où on révèle. Je pense que la mère des batailles, c'est d'expliquer aux jeunes garçons, aux jeunes filles, qu'on ne doit pas, en grandissant, se comporter comme ça.
Il nous reste une minute, monsieur le préfet. Le temps file. Je voulais terminer sur une note positive avec le Racing Club de Lens. Le 22 mai, un très bel événement se profile. Il y a le Stade de France, bien sûr, avec cette finale, et le Stade Vollaert à Lens qui va accueillir un écran géant. Vous travaillez sur le dispositif
Oui, bah, déjà, avec la mairie tout et le département en frétille d'envie de cette finale. Vous savez, le RC Lens, c'est un sujet qui unit le Pas-de-Calais.
Oui, donc c'est parce que la vague vous a gagné, vous.
Bien sûr, je suis allé plusieurs fois. J'ai trouvé une atmosphère qu'on ne trouve pas dans les autres stades. Bien sûr qu'elle m'a gagné. J'ai mon maillot, tout va bien, j'y vais, j'ai mon écharpe. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bah, on accompagne. Accompagner, ça veut dire mettre de la sécurité dans tout cela. On a plusieurs grands sujets. On travaille avec le club et les collectivités, je pense notamment à la région, pour permettre le déplacement de tous ces supporters qui actuellement, et je leur souhaite bon courage, essaient d'avoir une place. C'est un premier sujet, donc préfecture du Pas-de-Calais,
en cas de victoire, préfecture alors, de police. Il faut se préparer à quoi? Au samedi,
ensuite,
au dimanche?
J'ai compris qu'il y avait une très grande retransmission qui était prévue. Oui. Et puis en cas de victoire, on accompagnera les festivités. Je comprends que c'est en cours de négociation entre le club et la ville. Mais on sera évidemment présent pour préserver le caractère festif.
Merci beaucoup.
Merci.
François Xavier Loche d'avoir
Merci
été
beaucoup.
Notre invité préfet du Pas-de-Calais. On vous souhaite donc une belle finale avec un peu d'avance.
Merci beaucoup.
Très belle soirée sur BFM Grand Lille et Grand Littoral. Et on se retrouve la semaine prochaine.